Dieu est présent. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est dans ce lieu actuellement? En ce moment même, Dieu est dans ce lieu. La Bible dit que l'Église, elle est le corps de Christ et que Jésus, il est à la tête, il est le chef de l'Église et nous, nous sommes son corps. Nous sommes, nous tous, chacun, membres du corps de Christ. Et Paul, il dit aux Romains que nous formons un seul corps en Christ et que nous sommes tous membres des uns et des autres. Pour qu'un corps puisse bien grandir, pour qu'un corps puisse bien se développer et aller de l'avant, il a besoin d'être en bonne santé. Ce corps, il a besoin aussi de bien manger, d'avoir une bonne nourriture et de faire aussi un petit peu d'activité physique, n'est-ce pas? Hein? Mais... Voilà. Pour certains, il semblerait que ce ne soit pas nécessaire. Pour moi, en tant que vendeur dans une boutique bleue, je vous dirais que c'est utile de faire du sport. Bref. Mais je dirais qu'il en est de même pour l'Église, le corps de Christ. Pour que l'Église puisse être en bonne santé spirituelle, pour que l'Église puisse grandir, nous avons besoin d'être ce corps qui soit en bonne santé. Nous avons besoin de prendre soin des uns des autres. Nous avons besoin d'être unis, unis par la parole de Dieu, unis dans la présence de Dieu. Il nous faut, je dirais aussi, travailler au bien de tous et de toutes. Regardez, on va lire ensemble dans Galates 6. Paul s'adresse là aux Galates, il va donner plusieurs exhortations, plusieurs instructions, et je crois qu'il y a tellement de choses bonnes à en tirer pour nous encore aujourd'hui. Regardez dans Galates 6, verset 1, et on va lire jusqu'au verset 10. Il dit « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous n'en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Paul exhorte là l'église de Galates à travailler les uns les autres. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts pour travailler à cette unité, pour travailler au bien-être de l'Église. Et il va commencer, il va dire, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Il nous arrive à tous de faire des erreurs. Il nous arrive à tous, parfois, de chuter. C'est vrai, nous sommes humains, nous avons encore cette nature charnelle, nous devons marcher par l'esprit. Mais il nous arrive à tous parfois de chuter ou de faire des erreurs. Et nous, qui sommes spirituels, n'est-ce pas? Nous sommes tous spirituels. Hein, comment réagissons-nous lorsqu'on voyons un frère ou une sœur chuter ou faire une erreur? Notre nature, notre vieille nature aurait plutôt tendance à juger la personne ou à regarder ce qu'elle a fait qui n'était pas bien. Mais nous, qui sommes-nous pour juger? Si un frère ou une sœur qui aurait chuté, qui aurait commis une erreur ou qui peut-être vivrait des temps difficiles, mais qui sommes-nous, nous, pour juger? Prenons garde. Paul dit aux Galates, mais prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est vrai, si le frère ou la sœur est tombé dans telle ou telle chose, mais ça aurait pu aussi nous arriver, c'est vrai. Prenons garde à nous-mêmes, prenons garde à ce que nous soyons, nous, si pas tentés que nous aussi, nous puissions ne pas faire les mêmes erreurs. Regardez, lorsque les pharisiens, ils ont amené la femme adultère, ils l'ont mis sur la place publique et puis ils ont interpellé Jésus. Ils ont dit, mais cette femme a été surprise en adultère. Elle a été surprise et pourtant la loi de Moïse nous dit qu'elle doit être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jésus va lui dire que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Alors le texte nous dit qu'ils ont été accusés par leur conscience et finalement ils sont tous partis. Ils sont tous partis, se sont retirés accusés par leur conscience. Et Jésus, il s'est retourné vers cette femme. Il lui a dit, mais finalement, ils sont où tous ceux qui t'ont accusé? Il n'y a personne pour te condamner. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va maintenant, ne pêche plus, je ne te condamne pas. La loi peut-être exigeait que cette femme soit lapidée et les pharisiens attendaient une réponse de Jésus. Ils attendaient que Jésus aille dans leur sens. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut juger cette personne? Est-ce qu'on peut faire finalement ce qu'elle mérite? Mais Jésus répondit finalement que celui à qui est sans péché jette la première pierre. Finalement, il n'y a pas de grand ou de petit péché aux yeux de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Et celui qui voudrait juger finalement quelqu'un à cause de ses fautes, à cause de ses erreurs, qui regarde d'abord à lui-même. Vous connaissez certainement ce verset dans Matthieu 7, verset 3, qui dit « Mais pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» C'est vrai, parfois, il est tellement facile de juger les autres, au lieu de nous regarder nous-mêmes. Jésus n'a pas condamné cette femme. Mais dans sa grâce et dans sa bonté, il a pu la redresser. La Bible nous encourage de la même manière à redresser avec un esprit de douceur. Celui qui a pu faire une erreur, celui qui peut-être vit des temps difficiles, vit dans le péché, que nous puissions pas être de ceux qui jugent, mais de ceux qui redressent comme Jésus, de ceux qui reprennent avec douceur. Non pas avec notre caractère et notre nature charnelle, parce qu'au contraire, cette vieille nature aurait tendance à peut-être réagir avec une réaction qui peut être mauvaise et qui peut blesser la personne. Une réaction qui peut, au contraire, casser. Comme une barre qui serait courbée, si on veut la redresser brusquement, elle risquerait de casser. Mais au contraire, qu'elle puisse être redressée avec douceur. Nous avons besoin d'être revêtus du Saint-Esprit, frères et sœurs, pour pouvoir encourager celui ou celle qui traverse des temps difficiles, pour pouvoir redresser avec douceur comme Jésus, sans porter de jugement. Veillons aussi sur nous-mêmes, de peur que nous aussi nous ne soyons pas aussi tentés. Et Paul, il va un petit peu plus loin, il va dire même porter les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez la loi de Christ, la Bible, elle nous encourage ainsi à porter les fardeaux les uns des autres. Lorsqu'on porte des charges qui sont lourdes, qui sont difficiles à porter, c'est agréable de se sentir soutenu, n'est-ce pas? C'est agréable de se sentir soutenu par les autres membres du corps. Paul, il dit aussi aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, au verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Il en est de même pour le corps de Christ. Lorsqu'il y a un membre qui souffre, lorsque les autres le voient, ils doivent souffrir avec lui. Ils doivent porter ses fardeaux. Ils doivent l'encourager. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de marcher chez vous pieds nus et là, on se prend le petit orteil sur la table? Ça fait mal, hein? Et là, quand le petit orteil il souffre, finalement, c'est tout le corps qui souffre, hein, n'est-ce pas? On a cette sensation, la douleur qui traverse tout le corps, pourtant, c'est juste le petit orteil. Si je vous donne cette image, c'est que parfois, on a tendance à fermer les yeux sur ceux qui sont autour de nous, qui souffrent, qui traversent des temps difficiles. Mais que nous puissions être de ceux qui les encouragent, qui portent les fardeaux, qui les aident à surmonter. Et ainsi, en nous soutenant les uns les autres, nous accomplirons la loi de Christ. La loi de Christ, c'est suivre son exemple, c'est suivre ce que Jésus nous a laissé comme exemple. Lorsqu'il était sur terre, il nous a montré comment marcher, il nous a montré l'exemple. Et ainsi, en marchant comme Christ a marché, en ayant cette douceur, cette compassion comme il avait, nous accomplirons la loi de Christ. La loi de Christ, elle peut se résumer par un seul commandement que Jésus a donné. Dans Jean 13, 34, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aimais, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et si nous avons ce même amour les uns pour les autres, alors nous aurons ce regard porté vers celle ou celui qui traverse des temps difficiles et nous le soutiendrons dans la prière. Nous sommes ici dans une réunion de prière que nous puissions là nous soutenir les uns les autres. Nous avons besoin d'être revêtus de l'amour de Dieu dans notre vie pour aimer comme Dieu aime chacun d'entre nous. Si on continue dans les versets suivants, Paul il dit aussi que si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Celui qui pense être quelque chose, celui qui pense être important, celui qui pense être trop important pour s'intéresser à celui qui souffre ou à celui qui est dans la difficulté, il s'abuse lui-même. En réalité, mais qui sommes-nous devant Dieu ? Nous ne sommes rien devant Dieu. Qui sommes-nous face à lui ? Que chacun s'examine. Que chacun s'examine et puis qu'il puisse regarder ses propres œuvres avant de juger les autres. Et il nous est dit, et s'il y a sujet de se glorifier, bien gloire à Dieu. Si on a quelque chose en nous-mêmes qui peut glorifier Dieu, gloire à Dieu. Mais nous ne nous comparons pas avec les autres. La Bible nous dit ne pas regarder par rapport à autrui, ne pas regarder par rapport aux autres. Parce que il nous est dit, car chacun portera son propre fardeau. La Bible nous dit qu'un jour, tous chrétiens comparaîtront devant le tribunal de Christ. Et alors que nous retrouvons face à Dieu, alors que nous retrouvons face à Christ, non pas que notre salut il sera remis en question, mais Christ il va examiner notre vie, il va dire « Mais qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Pendant que ton frère était en souffrance, toi tu étais où ? Tu te pensais peut-être trop important, trop supérieur peut-être pour t'intéresser à lui, mais où tu étais à ce moment-là ? Où tu étais quand ta sœur était dans la souffrance ? Pourquoi tu n'as pas prié avec elle ? Pourquoi tu n'as pas encouragé ? Chacun sera examiné individuellement. Chacun portera son propre fardeau. Chacun portera sa propre responsabilité. C'est la Bible qui le dit. Romains 14, 10, dans le même sens, il nous dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Jamais nous devrions penser que nous sommes trop importants pour nous soucier des problèmes des autres ou pour nous soucier, nous intéresser et porter les fardeaux des autres. Philippiens 2, 3 dira « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Un esprit de parti, c'est, je dirais, avoir le désir d'être le premier, d'être le plus fort, le plus grand. La vaine gloire, c'est finalement, ça représente l'orgueil. Et ces choses-là sont des choses qui sont néfastes pour le corps de Christ. Ces choses-là, elles sont néfastes pour l'unité dans l'Église. Mais au contraire, que l'humilité nous fasse regarder les uns les autres comme supérieurs, comme au-dessus de nous-mêmes. Que nous puissions rechercher cette humilité, que nous puissions être à l'image de Christ. Christ, qui est l'exemple suprême de l'humilité. La Bible nous dit qu'il était l'égal de Dieu. Et pourtant, il s'est abaissé. Il a pris l'apparence d'un homme, d'un serviteur. Et il est allé jusqu'au bout. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort sur la croix, par amour pour nous. Que nous puissions prendre son exemple. Mais qui sommes-nous pour juger telle ou telle personne ? Mais qui sommes-nous pour ne pas compatir envers celui ou celle qui a besoin d'être encouragé, d'être exhorté. Dans le même sens, le corps de Christ, il est composé de plusieurs membres, mais il aussi, Dieu a établi aussi des ministères pour son corps. Dieu a établi des ministères et pour les membres du corps, il y a là une consigne. Il nous est dit dans Galates 6, dans le verset 6 qu'on a lu, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. La Bible nous exhorte par là à encourager, à soutenir les membres du corps qui ont des responsabilités dans ce corps. Les personnes qui sont en charge de la prédication, de l'enseignement, les pasteurs qui ont des fardeaux, des difficultés, des lourdes charges, qui puissent être aussi soutenus par l'Église. Ce verset nous encourage aussi à soutenir les ministères. Regardez, Paul, il dit à Timothée, qui est un jeune serviteur, il ne parle pas de moi, même malgré que je m'appelle Timothée, mais il s'adresse à un jeune serviteur et il lui dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement. Il parle des pasteurs, ceux qui ont la responsabilité de l'enseignement et de la prédication. S'ils dirigent bien, alors ils sont jugés dignes d'un double honneur. Bien jugé, ce n'est pas être un dictateur, ce n'est pas agir de façon autoritaire, avec force, avec contrainte. Mais je dirais bien diriger, c'est diriger à l'exemple de l'image de Christ. C'est montrer l'exemple. Et on s'efforce en tant que pasteur à montrer l'exemple aussi envers les autres membres du corps. Et ceux qui dirigent bien l'Église, ils nous parlent qu'ils sont ainsi dignes d'un double honneur, à la part, d'une part, de recevoir le respect des autres membres, mais aussi de recevoir le soutien des autres membres du corps. Dieu a établi des ministères parmi le corps. Il nous est dit la parole pour le perfectionnement, pour l'édification du corps. Et les membres du corps ont cette responsabilité de soutenir les ministères que Dieu a établis. Ils ont cette responsabilité de les soutenir à la fois financièrement, mais par la prière aussi. Que nous puissions être de ceux qui soutiennent à la fois les membres qui souffrent, les membres qui sont dans la difficulté, mais soutenir aussi les ministères dans la prière. De ceux qui sont dans des pays étrangers, qui vivent des temps difficiles, qu'on puisse les soutenir par la prière. De ceux qui sont aussi en France. En France, c'est un pays qui est parfois difficile aussi dans l'évangélisation, un pays qui est compliqué. Que nous puissions prier pour les ministères aussi, soutenir, avoir ce fardeau et soutenir ceux qui ont besoin dans la prière. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu, on l'a lu. On récoltera ce qu'on aura semé. C'est vrai. La négligence qu'on portera envers les membres du corps, envers les serviteurs de Christ, aura des conséquences. On ne se moque pas de Dieu. Lorsqu'on ferme les yeux sur certaines choses, sur certaines difficultés, cette négligence aura des conséquences. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, on l'a lu, il le moissonnera. Paul, il a dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour la chair, c'est lui qui agit de façon égoïste. Celui qui cherche son propre plaisir, celui qui cherche son propre confort, finalement, eh bien, il moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui agit de façon altruiste, qui cherche à soutenir les serviteurs, qui cherche à soutenir les membres, qui cherche à soutenir les frères et les sœurs à rechercher le royaume de Dieu, celui-ci, il sème pour l'esprit et il récoltera des récompenses le jour où le Seigneur reviendra. Je vais juste finir par ce verset. Comme on l'a lu, le verset 9 à 10 dans Galates 6, 9 à 10, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » La Bible nous encourage encore à persévérer et à ne pas nous relâcher, à continuer à prendre soin des uns des autres, à nous soutenir. En nous rappelant qu'un jour nous aurons des récompenses, nous récolterons les fruits au jour de la moisson. En toute occasion, pratiquons le bien envers ceux qui nous entourent, surtout envers les frères et les sœurs, surtout envers les membres du corps de l'Église. Au tout début, je parlais du corps de Christ, qui est l'Église, qui a besoin d'être en bonne santé. Et nous sommes tous acteurs, finalement. Si nous voulons que ce corps puisse aller de l'avant, pour que ce corps puisse être en bonne santé, nous avons besoin que les membres puissent prendre soin des uns et des autres, que les membres puissent soutenir, que les membres puissent redresser, comme on l'a lu, si nécessaire, redresser avec douceur, qu'ils puissent porter les fardeaux les uns les autres, qu'ils puissent encourager, soutenir les ministères, soutenir les uns les autres et rester dans l'humilité. Que chacun puisse rester dans l'humilité. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse nous remplir, que Dieu nous remplisse de son amour les uns pour les autres. Je vais m'arrêter là, on va fermer les yeux, on va prier, on va prendre un temps pour prier, on va prier dans ce sens-là, et après quoi Emmanuel il va nous conduire dans différents sujets. Mais que nous puissions prendre quelques minutes pour prier pour cela, prier pour l'Église, que l'Église puisse aller de l'avant, prier pour chacun d'entre nous, pour celles et ceux qui traversent peut-être des temps difficiles, que nous ne puissions pas fermer les yeux, que nous ne puissions pas tomber dans un jugement, mais que nous puissions reprendre avec douceur, exhorter, porter des fardeaux les uns les autres. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin. Que tu nous remplisses de ton amour, Seigneur Jésus. Que tu nous remplisses de ton esprit, de ta sagesse, Seigneur, que nous puissions manifester le fruit de l'esprit autour de nous. Seigneur Jésus, aide-nous à ne pas tomber dans l'orgueil, mais que nous puissions rester dans cette humilité, à regarder les uns et les autres comme au-dessus de nous-mêmes, Jésus. Nous voulons prendre soin des membres de ce corps, Seigneur, que tu as établi. Seigneur, tu es le chef de l'Église, tu es la tête de l'Église, nous sommes les membres les uns les autres. Mais qui sommes-nous, Seigneur, pour juger ? Pardonne-nous, Seigneur, si parfois nous tombons trop vite dans le jugement. Pardonne-nous si parfois nous tombons trop vite, Seigneur, dans certaines choses, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, faire de toi la priorité dans nos vies, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à nous encourager les uns les autres, à nous porter les fardeaux les uns les autres, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, de ton esprit, Jésus. Sois honoré, sois glorifié, Jésus. Amen.